Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Alors on va commencer tout doucement puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui font la queue à l'extérieur pour rentrer. Donc merci à tous d'abord d'être présents pour ces nouvelles Utopiales, les Utopiales 2014. En tant que délégué artistique, je suis ravi une fois de plus d'être à la manœuvre avec toute l'équipe qui organise les Utopiales pour vous faire passer d'agréables moments et des découvertes et puis des rencontres avec les auteurs. En particulier, une rencontre à laquelle je tenais beaucoup et que je voulais ouvrir avec Rémy Gourierec, ici présent, les Utopiales 2014. Donc Rémy Gourierec, merci d'être là, merci d'accepter notre invitation.
De rien.
Et puis, la raison principale, en fait, au départ, à part le coup de cœur pour Big Crunch, qui est son œuvre majeure, mais qui nous réserve bien d'autres surprises encore, c'est aussi le fait qu'il a eu, Rémy Gourierec, donc le prix spécial du jury de bande dessinée de science-fiction pour cette série, pour le premier tome de cette série, en 2012, aux Utopiales. C'était mes premières Utopiales, moi, en tant que délégué artistique. Et je me rappelle notamment d'un très bon moment qu'on avait passé, Rémy, à la radio, à Sun Radio.
Voilà, c'est ça. Première interview, tous les deux. Je ne sais pas si c'était ta première interview.
Ah oui, moi aussi. Oui. Je crois que c'était la première interview en tant que délégué artistique aussi. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, donc on se retrouve pour 2014 et donc autour de ton travail. Alors ton travail de scénariste, ton travail de dessinateur. Et on va revenir sur tout le parcours de Rémy. Alors première chose, commençons par la fin. Je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, le tome 2 de Big Crunch est sorti depuis combien de temps?
Un an. Donc là, c'est le tome 3 qui est en finition.
Et le tome 3 est en finition.
Voilà. Maintenant, vu que j'ai un peu traîné sur les tomes précédents, on ne donne plus de date tant qu'on n'est pas sûr de la date.
D'accord. Bon, donc, ceci dit, il n'a pas tant traîné que ça, puisque tu as commencé 2012, le tome 1, 2013, le tome 2, 2014. On est plutôt dans la régularité.
On est plutôt sur un an et demi par tome, même si j'aimerais descendre à un an par tome. Mais bon, 200 pages... En dessinant et en écrivant tout, c'est un rythme difficile à tenir.
D'accord. Et est-ce que tu prévois de tenir ce rythme? Je commence exprès par la fin pour donner de l'amplitude. Est-ce que tu prévois de tenir ce rythme sur un nombre de tomes très important?
Moi, je prévois de faire au moins 5 tomes. C'est un peu l'histoire qui va décider. C'est assez facile de se prendre soi-même à en raconter plus que ce qu'on avait prévu au départ. Donc 4, 5, 6 tomes.
4, 5, 6 tomes, d'accord. Alors pour les gens qui nous écoutent, et puis je pense que certains d'entre vous connaissent déjà Big Crunch, ou l'ont déjà vu ou l'ont déjà lu, on va maintenant revenir à la racine. Donc Big Crunch, est-ce que c'est ta première œuvre déjà? Est-ce qu'on peut considérer Big Crunch comme une première œuvre?
Alors moi, j'ai du mal à le considérer comme ça. J'ai beaucoup travaillé avant. C'est ma première œuvre éditée, ma première œuvre où j'ai collaboré vraiment avec un éditeur, un directeur de collection pour produire un livre spécifique. Mais avant, j'ai fait déjà des histoires un peu longues, en tout cas d'une cinquantaine, soixantaine de pages sur mon blog. Avec des amis dessinateurs. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça, par le plaisir de dessiner sans intention de sortir les bouquins au départ. Donc effectivement, c'est ma première œuvre aboutie vraiment, mais j'ai fait beaucoup de choses avant en fait.
Alors c'est intéressant ça, abouti. Pour moi, tu fais partie, tu as 33 ans ? 32 ans. Tu fais partie de la génération des auteurs qui ont commencé à travailler de façon, je vais dire, professionnelle, de façon très engagée, sur les blogs. Oui. Et donc, pour lesquels, finalement, la publication, ce qui est traditionnellement, ce qui est souvent le passage d'un auteur amateur à un auteur professionnel, mais finalement, pour lesquels la publication n'est pas forcément l'aboutissement. J'ai envie de dire l'inverse, c'est-à-dire que, finalement, ton travail de blog, est-ce qu'on peut le présenter comme un travail professionnel ?
En tout cas, l'attitude, quand on veut tenir un blog sérieusement, pour qu'on soit lu, pour que les gens reviennent régulièrement, il faut fournir assez souvent. Donc ça demande une attitude professionnelle par rapport à la gestion de son blog. Après, ça reste quelque chose qui est fait vraiment en amateur, dans le sens où il n'y a pas d'ambition autre que d'être lu par des gens. Il n'y a pas de recherche de monétisation du blog. La plupart des gens qui ont des blogs, qui ont fait ça à la même époque que moi, n'avaient pas de pub. Tout le monde avait moyen d'en mettre, mais personne ne l'a fait, quasiment personne. Du coup, il n'y avait pas cette recherche de professionnalisation, mais on essayait d'avoir une attitude professionnelle par rapport à la BD.
Et finalement, le blog, tu le considères donc comme une forme de laboratoire, d'inspiration, de technique ?
C'est vraiment ça. Moi, j'ai commencé la BD. Enfin, j'ai commencé. Je faisais de la BD quand j'étais jeune, mais j'ai commencé à faire sérieusement de la BD juste parce que j'avais des lecteurs sur le blog. En fait, c'est sans intention de devenir auteur de BD derrière. C'est vraiment pour le plaisir de faire marrer quelques gens, d'avoir. Il y a ce rapport direct, on a quelques commentaires, on a l'impression d'avoir fait mieux que d'habitude, les gens nous disent qu'on a fait mieux que d'habitude, voilà, ça nous pousse à continuer, et c'est vraiment sur la durée, sur un an et demi, deux ans, en rencontrant des gens, en poussant un peu le truc, qu'on se pose la question de devenir professionnel. Mais une grande partie des gens qui font des blogs ou qui ont fait des histoires à ce moment-là ne le sont pas devenus et n'en avaient pas l'ambition, ou alors on fait un album qui était juste une reprise du blog, et c'est pas grave, hein. On ne demande pas à tout le monde de devenir professionnel de la BD. Moi, j'ai fait beaucoup de choses autobiographiques au départ sur le blog, mais assez vite, je me suis orienté aussi sur des histoires de fiction pure. Et aujourd'hui, ce que je fais professionnellement, c'est de la fiction pure. Donc c'est un choix aussi de s'orienter vers ça.
D'accord. Quand est-ce que tu as créé ton blog ? Quelle était la première ? C'était 2007, c'est ça ?
J'ai pas les dates en tête, ça doit être ça. Ça fait, ouais, ça commence à faire un moment maintenant.
Je crois que j'ai le blog ici.
On
vous montre pas le blog directement parce qu'il y a plein de choses autobiographiques, mais en même temps vous pourrez le voir.
C'est totalement aussi.
Avril 2006.
Ah, 2006.
Tout à l'heure on vous montrera le blog parce qu'il a fait notamment des comic strips qui sont absolument absolument émouvants de mon point de vue, où notamment il revient sur certains épisodes clés de sa vie personnelle. Donc avril 2006.
Moi j'étais ça. Moi novembre, j'étais graphiste.
Voilà, tu étais graphiste au départ.
Donc, en fait, j'avais un travail qui payait très bien, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Je travaillais pour la Cité Congrès d'ailleurs, notamment. Et donc j'étais salarié, j'avais un peu de temps en dehors du boulot. Donc j'ai fait ça le soir quand je rentrais, je m'occupais du blog. Et vraiment, ça s'est fait. Je pense que là, on parle de 2006, les six premiers mois ou la première année, il n'y avait pas d'autre intention que juste d'avoir un endroit où poster des dessins.
D'accord.
C'est vraiment avec le temps.
Je vais juste demander, est-ce qu'on peut switcher d'un ordinateur à l'autre de manière à voir le blog ? Est-ce que c'est possible ? Je le fais ? Ok.
Ce n'était pas prévu comme ça, mais on va quand même le faire.
Voilà, je pense que ça va être possible. Alors, oui, tout à fait. J'ai l'habitude, ne bougez pas. On y est, voilà. Et hop, voilà ici. Voilà. Donc là, vous avez le... Pardon. Les premières entrées du blog de Rémy Gourirec qui s'appelle L'Esbrouf. Pourquoi ce titre d'ailleurs ?
Ça se faisait beaucoup quand on faisait un blog. Surtout, c'est vrai qu'au début que j'ai fait le blog, les premières histoires autobiographiques, je parlais d'amis, de ma vie personnelle. J'avais pas forcément l'intention d'être reconnu en fait. Et c'est un ami qui, sur une des premières histoires, a reconnu mon trait tout simplement en fait. Et donc j'ai commencé à assumer. De m'appeler Rémy derrière, mais c'est au début ça m'allait très bien d'avoir un surnom en fait, cette sensation de liberté que ça autorise dans l'autobiographie.
On a perdu le
l'internet.
Oui, alors je vais le retrouver. On a perdu internet. Ça fait partie des il est là, voilà. Désolé. Alors. Il faut que je retrouve. On va fermer Safari. Zut. Je trouve pas le. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. On va repasser. On va repasser. J'ai voulu trop bien faire, désolé. C'est partie des erreurs de départ. Donc on va repasser sur ton ordi. Donc pour le blog. Donc cette dimension autobiographique était vraiment très importante. Et donc tu es passé petit à petit donc de l'autobiographie finalement à petit à petit la fiction.
Voilà.
Alors, qui nous amène à partir de Big Crunch, la première genèse de Big Crunch, c'est quand à peu près ?
Alors,
à quel moment tu commences à concevoir la possibilité d'une fiction ?
Il y a vraiment un autre travail que j'ai fait juste avant qui s'appelle Le Centre Aéré. Qui m'a emmené vers ce que serait Big Crunch en fait. C'est le premier dossier que j'ai fait. Enfin, c'était une des premières longues histoires que j'avais faites sur mon blog. Et c'est une histoire d'un centre aéré en montagne assiégé par des singes tueurs. Voilà, ça a un côté très improvisé et ça fonctionnait assez bien. Et c'était intéressant à moi d'avancer dans cette improvisation. Du coup, c'est le premier dossier que j'ai proposé aux éditeurs, notamment.
Alors, je pense qu'on peut maintenant montrer.
Choses voilà. Comme ça.
C'était et déjà l'histoire d'enfants, hein. C'était déjà l'histoire d'un groupe d'enfants.
Oui, c'est marrant parce que Lewis Trondheim, directeur de collection actuel de Big Crunch, je lui ai envoyé les deux projets. Et il m'a dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser au niveau psychanalytique dans le fait de proposer que des histoires avec des enfants qui se retrouvent tout seuls. Mais je pense que j'avais en fait un premier jet avec le centre aéré qui n'était pas forcément abouti narrativement et même en termes de dessin, et que c'est Big Crunch qui m'a permis de pousser toutes mes envies, effectivement, d'enfants, adolescents qui se retrouvent seuls à devoir gérer des événements difficiles. J'aime beaucoup ce passage de l'adolescence parce que on accepte, on n'est pas encore cynique et blasé, donc on accepte de faire des choses un peu folles. C'est intéressant comme type de personnage mis dans des situations un peu difficiles. Donc en fait le premier projet éditeur, j'ai eu quelques réponses intéressées, mais pas de choses qui sont signées. Donc pendant que j'attendais les réponses, tout simplement, j'ai fait ce deuxième projet qui commence vraiment par une image que j'avais en tête d'un super héros. Retrouvé par inanimé dans sa cuisine, retrouvé par ses enfants. C'est vraiment cette image-là qui a commencé la réflexion autour de cette histoire. Et c'est l'image forte de la fin du premier chapitre, en fait. On commence vraiment, on arrive à la fin du premier chapitre, ouais. Et c'est ça qui lance l'histoire.
Tout à fait, vous avez ici le premier volume de Big Crunch, donc sorti en 2012, ici. Donc en noir et blanc, on va revenir sur les raisons du noir et blanc. Et le deuxième volume qui est là.
Voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire mon projet, la première illustration que j'ai fait autour de ça, c'était cette illustration-là. C'était une illustration qui s'intitule L'heure du goûter. Donc, les trois Parisiens, des adolescents en costume de super-héros, en pose de super-héros. Du coup, en pose, en attente.
Ouais.
Du coup, c'est un peu ça qu'a lancé. Voilà, ça a lancé la réflexion. Et j'ai commencé à écrire le synopsis d'une histoire complète.
C'est vraiment une image en fait au départ. Et cette image, la genèse de cette image, c'est un rêve, c'est un.
C'est toujours
trois
difficile
gamins
à dire.
Qui trouvent un super héros inanimé dans la cuisine. L'image est très suggestive.
J'arrive pas à remonter la genèse plus loin que ça. Je peux identifier le moment où effectivement je me suis dit, j'ai un truc. Mais après, c'est quand on recherche des idées, c'est assez difficile de dire qu'est-ce qui mène à quoi. J'avais pas forcément, j'étais pas forcément intéressé par faire une histoire de super héros. J'étais pas. Je ne sais pas ce qui mène à ça.
Ça fait partie des particularités pour moi de ton travail, c'est cet aveu que certains ne font pas d'un travail, d'une inspiration, pas nécessairement complètement structurée ou complètement synopsisée ou dans tous les éléments. Tu dis dans ton interview de Quai des Brumes de l'année dernière que tu connais le destin de tes personnages, c'est-à-dire le début et la fin, mais que les étapes intermédiaires, finalement, tu ne les découvres qu'au fur et à mesure.
Oui, pardon. Je pense que ça vient notamment du blog et aussi de la lecture de. Mon directeur de collection, c'est Lewis Trondheim, mais il a fait partie des gens qui ont prôné énormément l'improvisation dans le travail. Donjon, qui fait avec Johan Sfar, qui est une série qu'ils font à deux, qui est énorme en termes de structure globale d'histoire, et une improvisée. Ça veut dire que chaque album. N'a pas été pensé à l'avance. Donc ça fonctionne vraiment bien et on s'en rend pas compte. Et c'est quelque chose que j'aime penser. Aujourd'hui, je me mets quand même. Il y a des gens qui travaillent même sans savoir leur fin. Moi, je préfère savoir effectivement où ça va et travailler sur improviser les scènes après scène. Même là, quand j'écris, en fait, j'ai un synopsis sur un chapitre de 24 pages. Je vais avoir un synopsis d'une page à peu près qui décrit ce qui va se passer. Et après, je fonctionne vraiment scène par scène. Donc, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Je les fais complètement et après je passe à une scène suivante. Ça me permet à chaque fois d'amener des choses que, auxquelles j'aurais pas forcément pensé, une histoire de vêtements, enfin qu'on va dessiner vraiment dans le concret, dans la scène et qu'on va pouvoir utiliser sur les scènes suivantes.
En fait, pour moi, de façon très claire, en lisant Big Crunch et en redécouvrant ton blog, puisqu'à l'époque des premières Utopias, je n'avais pas regardé le blog attentivement, on voit très bien à quel point le blog a été une maturation et une maîtrise de l'improvisation, effectivement. Et je pense que ça donne à la série Big Crunch sa tonalité très particulière sur laquelle on va revenir, où finalement le super-héros n'est pas la clé, mais presque le décor, finalement. Et la vraie question sont les rapports, et c'est extrêmement bien senti, hein, les rapports entre les enfants sont très, merci, très émouvants et très, très, très touchants, finalement, très rapidement. Alors, avant d'arriver à ce cœur du sujet, encore une question sur pourquoi le choix du noir et blanc, alors que le blog est en couleur, bien souvent.
Oui.
Donc, pourquoi le choix du noir et blanc? Moi, ça m'a semblé, dans un premier temps, peut-être paradoxal. Je ne sais pas pourquoi le noir et blanc, c'était mieux. Et puis finalement, ton rapport aux comics, parce que si je comprends bien, tu n'étais pas forcément un lecteur passionné de Marvel ou DC Comics ou des super-héros. Et donc finalement, voilà, ces deux questions me semblent connexes.
Sur la couleur, il faut savoir que quand on envoie un projet éditeur, donc moi, ça faisait partie des premières planches envoyées aux éditeurs. Donc c'était des planches couleur en format classique. J'ai envoyé 7 planches finies qui ne correspondaient pas forcément aux premières planches, qui correspondaient plus à un extrait de l'histoire. Donc c'était vraiment de la couleur. Et c'est une discussion avec l'éditeur qui permet d'aboutir à ce format noir et blanc de 100 pages. J'ai discuté avec Lewis Trondheim, justement, qui voulait lancer plus de bouquins à parution rapide, 200 pages noir et blanc à un prix raisonnable. Moi, ça m'intéressait. C'est quelque chose à laquelle je pensais, mais pas forcément sur un premier tome, parce que je savais ce que ça demandait en termes d'énergie et de professionnalisme. Donc ça me faisait un peu peur au départ, mais ça m'intéressait beaucoup. Du coup, on s'est lancé là-dessus. Je pense que ça convenait assez bien. Moi, je suis un lecteur de manga. Je lis un peu de tout, mais aussi beaucoup les mangas. Donc ça faisait partie de ma culture, le noir et blanc, tramé, c'est quelque chose que je trouve joli. Ce n'est pas du tout une moins bonne BD, une moins belle BD. Et surtout, ça permet de passer plus de temps à faire des pages. La couleur, il faut savoir qu'une page couleur, on passe autant de temps à faire juste la couleur que le reste de la page. D'accord. C'est du temps moins... ça bouffe moins d'énergie. Mais c'est du temps à passer, donc je préfère faire 2 pages plutôt que faire une page couleur.
Le noir et blanc, c'est peut-être aussi plus favorable à l'improvisation, parce que justement, on passe moins de temps sur l'image en tant que telle, et du coup, on est plus dans l'accélération de cette improvisation dont tu te revendiquais tout à l'heure ou...
Oui, bah, tout ce qui favorise le tombé de page, voilà, être capable de en noir et blanc, je peux faire sur des semaines où je vais travailler 12 heures par jour, et toute la journée, je vais pouvoir faire quasiment 15 pages sur une semaine. En couleur, c'est impossible. Ça fait partie de l'énergie nécessaire au bouquin, à mon avis. Je pense qu'on fait d'autres types de BD. Si j'avais fait en couleur, ça aurait peut-être été plus un 48 pages avec beaucoup plus d'ellipses dans l'histoire. La narration serait différente, moins sur les personnages et plus sur le... Voilà, c'est une autre façon de raconter, en tout cas.
Et au niveau du format à proprement parler, dans la collection donc Shampoing de Delcourt, ce choix de ce format, c'était aussi un choix éditorial en partenariat avec l'éditeur, ou c'est le format que tu souhaitais dès le départ?
Alors,
Parce que les formats manga souvent sont un peu plus petits. Hein, donc,
au départ, c'était censé être plus petit.
D'accord.
Et comme j'expliquais tout à l'heure, le but c'était de faire des bouquins à parution rapide, sauf qu'en fait, il s'est révélé qu'il y avait quasiment personne dans tous les... On était plusieurs à avoir signé, en fait, pour ce type de bouquin-là. Et en fait, personne n'arrivait à tenir des délais rapides. Ça veut dire que ça aurait été 6 mois, par exemple. Il s'avère que les seuls qui arrivaient à faire ça, c'était plutôt sur des adaptations de blog ou des choses comme ça qui permettaient de sortir rapidement les bouquins. Donc, on a choisi, en commun accord avec l'éditeur, de sortir ça dans un format un peu plus luxueux que le format classique. Donc, malheureusement, un peu plus cher. Moi, j'aurais aimé que ça prenne pas beaucoup plus qu'au départ. Les petits formats étaient prévus à 10 euros. Aujourd'hui, on est à 15 euros.
14,50 euros.
Moi, je préférais que ce soit pas plus de 12, quoi. Mais bon, chacun. c'est d'autres choses qui rentrent en compte. Et donc, on s'est lancé là-dessus parce qu'on savait que les parutions seraient plus lentes. Donc, il y a plusieurs bouquins comme ça, plusieurs séries chez Shampoing qui ont suivi le même chemin, prévu en petit format et sorti en format A5, comme ça.
Alors maintenant, si on revient un petit peu, on va vous laisser aussi le temps pour des questions, hein, mais je continue à explorer Big Crunch. Si maintenant on revient un petit peu sur le fond et sur les personnages donc de ces trois enfants, enfin trois, quatre enfants en réalité, qui sont les protagonistes principaux, est-ce que tu peux situer un petit peu l'événement de départ ? Donc l'événement de départ, on l'a compris, c'est cette image, cette impression donc de ce super-héros inanimé dans une cuisine. Donc cette rencontre finalement hein, entre le super-héros figure de l'idéalisation et puis le caractère très concret finalement d'une vie d'enfant tout à fait contemporaine. À partir de là, comment as-tu imaginé leur parcours, leur personnalité ? Est-ce que c'est venu là aussi de façon improvisée, inspirée directement ? Ou est-ce que tu as construit les profils de tes quatre personnages, trois garçons et une fille ?
Non, au tout départ, en fait, quand j'avais cette image-là, je ne le voyais pas forcément pour le dessiner moi-même. J'attendais des réponses sur l'autre projet, donc j'étais plus dans une recherche peut-être de scénarisation pour un autre dessinateur. Donc j'avais le ton que ça a aujourd'hui, c'était pas forcément le ton avec lequel je voyais. C'est-à-dire que si j'avais écrit pour quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être plus été adapté pour du format j'allais dire jeunesse, mais plus 8-10 ans que adolescent. Donc j'ai écrit des petites scénettes qui n'ont pas été utilisées, qui avaient un ton justement différent. Et c'est vraiment en écrivant un synopsis complet, une histoire complète, que j'ai commencé à voir ce que j'avais envie de raconter en fait. Par petites scénettes, je faisais des choses plus légères, plus entre l'humour et l'action. Et en fait, quand j'ai écrit le synopsis, faut en venir à ce qu'on aime raconter. En fait, j'aime raconter peut-être des choses un peu plus humaines et un peu plus tragiques. Et l'action est là, mais à petite dose, peut-être plus petite dose que dans ce qu'on attend d'un livre de super-héros.
Alors oui, ce qui est remarquable dans Big Crunch, c'est que c'est tragique en fait. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très très grave. En fait, il y a une tonalité très grave. Donc au début. Au tout début, hein, je ne vous dévoile pas trop le premier tome, mais ça fait un moment qu'il est sorti, donc vous l'avez sans doute déjà parcouru ou lu. Ils observent, ils sont au cinéma en fait, hein, ils regardent un film sur les super-héros, où le super-héros est capable de tout faire, c'est une idéalisation. Et puis finalement, dans leur vie personnelle, on s'aperçoit que ce à quoi ils ont à faire face est beaucoup plus âpre, beaucoup plus noir. Il y a cette scène, moi, qui m'a beaucoup marqué, de l'attaque, enfin de la tentative d'enlèvement d'un docteur. Donc je rentre pas trop dans les détails, mais ces enfants vont essayer d'enlever un docteur pour qu'il soigne un adulte en particulier, donc ce super-héros inanimé. Et ils sont pleins de bonnes intentions, ils ne veulent ni brutaliser, ni... Et en fait, tout dérape. Et on voit bien dans leur expression de visage, et même dans le... Et là, je te vraiment tire mon chapeau, pas simplement dans l'expression des visages, mais dans le texte lui-même, l'expression des mots des enfants. Ces enfants qui sont entre l'enfant et l'âge adulte, et qui ont du mal à trouver le ton de voix et la situation adaptée à la gravité de la situation, l'attitude adaptée. Et ça, c'est très, très remarquablement senti. Et dans les comics de super-héros et même dans les mangas, on le trouve pas souvent. On sent vraiment ici qu'il y a cette lente maturation. Je pense qu'en fait, il y a une forme de continuation de tout ce que tu as travaillé sur l'autobiographie à travers cette approche profondément réaliste, profondément un peu tragique quand même.
Oui, bah moi, tout mon travail de fiction est souvent un peu tragique. Après, il faut savoir doser. Ça veut dire que là, par exemple, il n'y a pas du tout mort d'homme. C'est très... Et on peut rendre le tragique sans aller justement dans du pathos. En fait. Effectivement, il y a une légère noirceur. Mais finalement, c'est surtout que c'est humain. En fait. Les super-héros qu'on nous montre habituellement sont... sont des super-héros dès qu'ils passent le costume. Il y a moins de questionnements internes quand à la limite, ils vont l'avoir en dehors. Mais moi, ça m'intéresse à contrer ça. C'est pas contre les bouquins de super-héros habituels ou les films de super-héros. C'est juste autre chose. Il y a des gens, voilà, ils font très bien des choses plus pop, plus légères. Moi, ça m'intéresse de faire quelque chose, effectivement, d'un peu plus grave.
Cette légère gravité, c'est ce que tu as dit, cette légère noirceur, c'est très bien formulé. Est-ce qu'il y a une influence, on va revenir vers l'autobiographie, mais avant, est-ce qu'il y a une influence chez toi de tous ces récits de super-héros où on voit le volet intimiste du super-héros? Je pense notamment à Watchmen d'Alan Moore, ou je pense à Hancock, ce film, où on voit tout le côté, finalement, on peut être un super-héros, puis en même temps, on peut avoir des problèmes très... très terre à terre, de loyer à payer, de relations avec ses parents, etc. Est-ce que ça joue un rôle ou pas du tout ?
Je pense que c'est pas directement les films de super-héros qui exploitent ça. Par exemple, Hancock, moi j'ai arrêté au bout de 20 minutes. C'est un film qui m'a pas intéressé du tout. C'est peut-être d'autres par exemple, je pense souvent à Mathilda de Roald Dahl. Ou pour ceux qui l'ont lu, c'est une petite fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. Et c'est très, c'est un bouquin pas réaliste, mais justement c'est très dans le quotidien et un petit truc qui se déclenche. On est plus dans le fantastique que dans le super-héros, et c'est plus des choses comme ça qui m'ont influencé, à mon avis, que des vrais comics. Après, il y a effectivement des gens qui ont déjà travaillé là-dessus. Effectivement, Watchmen est un bouquin hyper intéressant, mais que je ne sais pas si ça m'a influencé. Je pense que ce qui m'a le plus marqué seront peut-être des bouquins en dehors des comics.
Est-ce que dans tes lectures, dans tes influences, en dehors des comics, en dehors de la bande dessinée, est-ce qu'il y a des livres en particulier ou des films, parce qu'on a parlé un petit peu des deux, qui t'ont influencé particulièrement, dont tu rends quelque part, dont tu es redevable pour Big Crunch, en science-fiction par exemple, mais pas nécessairement, je veux dire.
Moi j'ai quelques références globalement. Il y a Akira, le dessin animé au début qui m'a vraiment marqué à 11-12 ans, ça a été un vrai choc à l'époque. J'ai été un gros lecteur pendant toute ma jeunesse, notamment, je citais Roald Dahl tout à l'heure, mais j'ai aussi lu tous les Enid Blyton, tous les Clubs des Cinq. Peut-être qu'il y a un côté qui revient dans ces petits groupes de jeunes. J'ai lu tout ça, je pense que ça m'a influencé plus ou moins. J'ai un petit peu arrêté la littérature tout simplement par manque de temps. Faut choisir entre la BD, les films, les séries, voilà. Donc j'ai un petit peu arrêté la littérature, donc il y a moins de choses récentes qui m'ont influencé. Mais il y a des vrais jalons comme ça. Akira, c'est un jalon très clair. Plus jeune, les Roald Dahl. En BD, moi, des choses comme des vrais trucs avec le souffle de l'aventure, comme Joanne et Pierre-Louis ou des choses comme ça, m'ont fait aimer vraiment l'aventure et des histoires qui peuvent être... Si vous relisez un Joanne et Pierre-Louis, c'est vraiment très bien. Il se passe vraiment énormément de choses tout le temps. Il y a une structure, c'est pas juste un début, un événement et une fin. C'est vraiment, il y a plein d'événements, ça s'enchaîne. Bon, c'est lié à la parution de l'époque qui était page par page ou double. Donc c'est vraiment lié à ça. Il y a vraiment un plaisir de... Là, du coup, je pense que c'était improvisé aussi. En fait, je pense qu'il y a ce côté-là qui
On retrouve cette structure de Joanne et Pierre-Louis, effectivement, ce page par page, cette accélération, etc. On voit bien que ton rythme est plutôt 3-4 pages plutôt que de long développement. Et on retrouve vraiment des événements comme ça, hein, y compris dans le chapitrage des deux premiers tomes. Alors maintenant, pour revenir un petit peu toujours sur ses racines, puisque on s'est un peu promené comme ça à travers ton blog. Tout à l'heure, je vais essayer de le remontrer dès que j'aurai retrouvé la connexion. toi-même, est-ce que tu étais, parce qu'il y a ces relations entre les enfants, donc entre ces quatre enfants principaux, avec un tout petit, enfin le plus jeune, c'est Virgile, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Non, c'est Elias.
C'est Elias, pardon, Elias. Est-ce que toi, tu étais le plus petit d'une fratrie ou c'est, est-ce que auquel
non.
tu t'identifies
auquel je m'identifie a priori plus au niveau plus Virgile. Ce côté, je sais tout, un peu un but de soi-même. Voilà. Mais je suis oui, effectivement, bah, en fait, je m'identifie à Virgile, mais en fait, je suis le deuxième. Effectivement, j'ai un grand frère aussi. Je pense que ça ressemble. Il y a plein de choses qui reviennent. Je suis issu d'une fratrie donc de trois, sauf que j'ai eu beaucoup de demi-frères et demi-sœurs en plus. Donc, j'ai toujours vécu avec plein de gens à la maison, des repas à une dizaine de personnes. Donc, effectivement, c'est il y a un peu de tout le monde. Je sais que dans ma famille, quand les bouquins sont sortis, ils ont tous essayé de se reconnaître dans telle ou telle situation. Ils ont vu plus de choses que moi. Je pensais n'en avoir mis. Donc il y a un peu de tout qui se mélange.
Toute la famille se retrouve. Ils sont pas choqués ou pas.
Non, absolument pas. Bah, de toute façon, ils étaient. Il y a des choses bien pires sur le blog en autobio. Enfin, bien pire, plus personnel et. Et plus intime, donc là on est sur une œuvre de fiction, personne ne peut être dérangé par ça.
Ok, alors je viens de retrouver la connexion a priori, donc on va pouvoir revenir sur cette partie autobio. A priori, ça devrait être bon. Voilà. Voilà, donc là, il y a cette partie absolument, moi, qui m'a beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à parcourir le blog, en fait. Autant de temps à parcourir le blog qu'à lire Big Crunch.
J'ai des gens qui m'écrivent des fois encore aujourd'hui, alors que je n'ai pas mis une note, je pense, depuis 2 ans, qui m'écrivent pour me dire qu'ils viennent de tout relire et que ça.
Voilà,
ça les
on relit. Alors là, c'est par exemple quand tu deviens parrain.
Oui.
Donc cette façon de faire des comic strips en trois cases, finalement, ça a été très formateur. C'est-à-dire que ça a été une manière de jouer aussi sur. La façon rapide de raconter les choses, la façon un peu allusive aussi.
Ouais, c'est ça. C'est un très bon entraînement pour comprendre ce qui se passe entre chaque case. Enfin, accepter qu'il peut se passer plein de choses entre chaque case dans la BD. C'est un très bon exercice pour ça. Le strip, même en 3 cases, parce que déjà en 4 cases, on est sur une case de plus et souvent, et c'est une case qui sert à rien, celle qu'on va rajouter. C'est-à-dire que là, c'est vraiment hyper, hyper basique. On pose la situation, on pose l'événement et hop, il y a la chute qui arrive tout de suite. Il se passe toujours forcément plein de choses entre la deuxième case et la troisième case. Et là, c'est un très bon exercice. C'est vrai que là, on est sur les. Donc le blog, forcément, on le voit de façon antéchronologique. Du coup, là, c'est les dernières notes que j'avais postées. Et sur les premières notes. Sur les premières notes que j'avais faites, il y avait. Qui n'étaient pas d'autobio. Bah, si tu vas. Sur le calendrier, sur le côté, tu vas pouvoir monter, je sais pas, tu prends septembre, octobre 2006, tu vois.
Octobre 2006.
Je sais même plus ce que c'est.
Voilà, enfin, là, c'est... alors c'est
voilà,
pas blanc,
y a des histoires courtes.
Ouais, ouais.
C'est pas ça que je pensais, mais j'ai fait des strips, ça fait partie des premières histoires que j'ai faites, en fait, mais c'était déjà de la fiction. Ça s'appelle Hank. Ah bah tu peux y aller par en haut
oui,
peut-être.
Oui, je vais aller Hank ici.
Voilà. Donc ça ne correspond pas, mais un peu plus bas tu vas trouver. Voilà, c'était des strips comme ça, 4 cases. 4 cases. Ça c'était au début, ben justement après j'ai réussi à faire du 3 cases. C'était plus exigeant
merci.
Encore. Donc ça j'ai fait, ça c'est ma pro... voilà, j'ai 40 strips autour de ça. Un pauvre type. Juste trop gentil. Et j'ai commencé vraiment comme ça, sur le strip, mélangé avec des trucs d'autobio, mélangé avec des illustrations juste pour le plaisir, des illustrations à chute. Enfin, j'ai essayé de faire tout au départ. Je pense que c'est là qu'on sent qu'il n'y avait pas d'intention, vraiment de professionnalisation dès le départ. Et je pense que ouais, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait une énergie... qui était assez agréable à ressentir, que je peux regretter maintenant. J'en discute souvent avec d'autres auteurs, justement, qui ont commencé à la même époque, qui sont passés par le blog. Et c'est une énergie qu'on ne retrouve plus forcément dans les BD qu'on fait maintenant, plus sérieusement, où on passe 1 à 2 jours par planche. Et où on a écrit tout à l'avance, il y a quelque chose à retrouver. Du coup, on avait fait un autre site avec justement avec un ami auteur qui est avec moi à l'atelier qui s'appelle Brut. Si tu vas en haut, ici. Voilà, qui est un site qu'on a fait à deux mains.
Avec Raphaël. Oui.
Voilà, avec Raphaël Bechot, qui est auteur de BD sur Nantes aussi. Et où là, on a fait une espèce d'autofiction. On mettait une note par jour, voire même deux notes par jour. C'était quasiment happening, en fait, pendant un mois. On a produit énormément de notes pendant un mois. Et on se l'était dit comme ça. C'était vraiment juste pour retrouver cet esprit de l'époque où on fait juste un croquis vite fait, c'est pas forcément parfait en dessin, on revient pas dessus, c'est sans crayonner, on le fait directement. Et il y a une énergie qui était hyper agréable. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours génial, mais c'est voilà, il y a une énergie qui est là, qui est présente, et que je pense on aura envie de retrouver encore à un autre moment. Et c'est vraiment moi quelque chose que je conseille à tout jeune débutant, c'est de se lancer sur des choses sans but, quoi. Pensez toujours la BD, pensez le projet éditeur. C'est sûrement pas la meilleure façon de se faire plaisir et de s'améliorer.
J'avais un prof à la fac de droit qui disait toujours, ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune, il disait pour devenir ce que l'on est, il faut préférer ce que l'on aime, c'est-à-dire faire ce qui nous fait plaisir. Et puis peut-être que derrière, les choses s'ouvriront, mais pas forcément penser au but.
Voilà. Ah oui,
c'est ce que tu conseillerais finalement aux jeunes créateurs.
Bah, après c'est toujours facile quand ça correspond à son parcours de le conseiller. Moi j'ai fait une école d'art appliqué, j'ai fait une école de graphisme, j'étais graphiste. Du coup, j'étais pas forcément très éloigné de ce secteur, mais j'ai pas fait tout ça en me disant que je ferais de la BD. C'est quelque chose que j'aimais au départ, que j'aimais lire, que j'aimais faire, mais je pensais pas que ce soit possible. Donc je pense que ça m'a aidé de pas avoir eu ça comme but premier. Du coup, j'ai développé peut-être une culture de l'image un peu différente de si j'avais fait que du dessin.
Ce que tu disais dans ton interview, c'est le résultat de toutes tes influences finalement très hétérogènes.
Oui.
Tu n'as jamais été monolithique, tu t'es un peu intéressé à tout, pas spécialiste forcément de comics, lecteur de manga mais pas que. Et du coup, c'est ça qui fait la richesse derrière le fond de Big Crunch, en fait, c'est toutes ces expériences-là.
Oui, et puis il faut bien garder à l'esprit que la plupart des auteurs sortent leur première BD après 25 ans et souvent autour de 30 ans. C'est un métier de maturité quand même, donc c'est pas du tout un problème de passer par d'autres choses avant, c'est même plutôt un avantage. J'ai tendance à considérer ça comme un avantage. Moi ça me fait un peu peur, par exemple les écoles de BD, enfin ça me fait un peu peur, ça fait vieux.
Les écoles de BD, est-ce voilà. que c'est...
On a reçu quelques stagiaires dans notre atelier, et je comprends l'envie en fait immédiate d'en faire. Mais je pense que c'est pas la meilleure solution pour devenir un bon auteur de BD. C'est pas d'apprendre à faire de la BD, c'est de faire plein de choses à côté et de faire de la BD pour le plaisir.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension technique, puisque les écoles de BD donnent des techniques. Tu parles de techniques d'écriture, tu parles de techniques de crayonner, de critérium, etc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un aspect important. On n'a pas tous le même niveau, tous les auteurs de BD techniques, c'est-à-dire ne serait-ce que l'utilisation des logiciels. Tout le monde n'est pas capable de bien gérer Photoshop, de scanner correctement ses planches, alors qu'on nous demande, enfin, que ça fait partie de notre métier. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. C'est peut-être un peu facile pour moi de dire qu'il faut faire d'autres choses. J'ai fait graphiste, donc l'aspect technique, je l'avais. J'ai quand même fait des cours de nu, des choses comme ça. Donc effectivement, il y a une dimension technique qui est très présente, mais tout ça s'apprend, et ça peut s'apprendre sur le tas. Moi, par exemple, pour ce qui est de l'écriture, il n'y a rien qui me prédestinait à être capable d'écrire mes propres BD. En fait, c'est en faisant que je me suis rendu compte que je faisais ça pas trop mal, et que ça intéressait d'autres gens, et que d'autres gens, d'autres dessinateurs même avaient envie de dessiner sur mes histoires. Donc c'est ça qui a confirmé. Mais j'ai pas, la technique est venue après finalement. J'ai fait notamment des scénarios de dessins animés jeunesse qui passe sur TF1, sur France 3. Et là, ça, c'est une vraie école, effectivement, de la technique d'écriture. On a un directeur d'écriture qui nous donne un épisode à faire. On est tout seul sur son épisode.
Avec un format très strict.
Avec un format très strict, un nombre de pages, un nombre à respecter, des événements très clairs, très timés en fait. À la page 3, en fait, chaque page correspond à une minute, et à page 3, il faut que toute l'intro soit finie. Et voilà. Et donc, et surtout, des allers-retours permanents. On fait 20, 25 versions d'un même scénario avant qu'il soit bouclé. Et ça a été très intéressant. Ça n'a pas été forcément passionnant en tant qu'auteur, mais en tant qu'effectivement apprentissage technique, c'est très, très, très intéressant. Par contre, il faut être prêt à accepter qu'on modifie plein de choses sur son propre travail.
De ne pas avoir le contrôle du tout. Ouais.
Pas avoir le contrôle et puis accepter qu'on n'est pas... Enfin, qu'on est dans un domaine où il y a des attentes qui ne sont pas forcément juste nos attentes d'auteur. Il y a des attentes spécifiques, donc on va nous demander de refaire des choses qu'on trouverait bien et qu'on sait être mieux, plus intéressantes, mais il faut quand même réécrire.
Et en même temps, c'est le côté, j'imagine, un peu rémunérateur aussi, c'est-à-dire que ça permet aussi de se donner du champ pour ses projets personnels.
Oui,
c'est un peu comme un texte de commande, finalement, on répond à la commande. Et ce travail-là, au-delà du fait qu'il est extrêmement cadré, extrêmement strict, extrêmement contraignant, et où tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même parce que le format est comme ça, ça te libère aussi derrière, par le côté rémunérateur, plus d'espace pour
malheureusement, oui, c'est les métiers où on a les aspects où on a le moins de liberté qui se payent souvent le mieux. Donc effectivement, ça paye beaucoup mieux que la BD. En BD aussi, si on est sollicité par un éditeur sur un projet spécifique, on va souvent avoir une meilleure position pour négocier. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on veut faire exactement ce qu'on veut faire, il faut en accepter les conséquences financières et réussir à se dégager de la liberté autrement. Moi, il m'arrive, donc j'ai fait ces scénarios de dessin animé, il m'arrive toujours de faire des piges en graphisme qui vont prendre 2 jours, 3 jours pour récupérer l'équivalent de 2 semaines de travail, le même salaire qu'en 2 semaines de BD. Donc j'essaye, voilà, il faut la liberté, ça s'achète presque.
Oui, non, mais c'est très bien, c'est ça en fait. Et pour les auteurs de livres aussi, c'est la même chose. Hein. Souvent, il y a des textes de commande qu'on fait. Parfois, certains deviennent traducteurs. Alors, il y a les traducteurs qui sont traducteurs par essence, par goût, par formation. Mais parfois, certains auteurs deviennent aussi traducteurs parce que, eh bien, il faut bien, pour pouvoir vivre à plein temps de son écriture, eh bien, faire quelque chose à côté. Donc, c'est à la fois formateur, avec ce risque toujours de se retrouver avalé par ceux qui rémunèrent le plus. Alors, il nous reste encore du temps, mais je voudrais voir peut-être avec vous s'il y a des questions sur le travail de Rémy Gourierec. Sur Big Crunch, sur son parcours, vous avez vu toute l'importance de ce blog. Encore une fois, j'insiste sur la richesse du blog. J'adore la série Big Crunch, mais le blog est absolument fascinant. On peut y passer des heures, et pas simplement dans la partie autobiographique, mais dans la partie. Il y a plein de parties dans ce blog. C'est vraiment une vitrine sur son travail. Donc, est-ce que quelqu'un a une question sur ses techniques de travail, sur son parcours, sur des conseils qu'il peut éventuellement donner à de jeunes auteurs? Non? Pas de questions du tout.
C'est toujours dur, les questions.
Difficile, les questions. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur un côté... Bon, moi, je suis très marqué par les super-héros, les comics plutôt américains, un peu moins les mangas. Moi, j'étais très Marvel, etc. Mmh. Et ce qui m'a plu aussi dans Big Crunch, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchant. Il y a un méchant, mais extrêmement diffus et en fait très inquiétant, je trouvais.
Il y a des menaces.
Voilà, il y a des menaces. Et puis, alors ça, c'est mon fantasme personnel hein, sur Big Crunch, donc je me permets d'en parler, puisque voilà, comme une forme de question, si tu veux, mais j'ai l'impression que le monde est un peu dickien, un peu factice. C'est-à-dire que quelque part, la menace est même dans la structure même du monde. Peut-être je me trompe, je ne te demande pas de dévoiler quelque chose. Mais est-ce que c'est ce que tu as voulu rendre comme inquiétude? Parce que pour moi, il y a une inquiétude dans Big Crunch. C'est l'inquiétude que le monde ne fonctionne pas comme il devrait. Et on le voit dans le deuxième tome émerger un peu plus cette dimension presque de petits déclenchements ou de petits signes qui montrent que quelque part, quelque chose est en train de transformer le monde. Est-ce que c'est ça ou est-ce que...
Ah bah écoute, je sais pas si, non, si je t'en dis trop.
Non. N'en dis pas trop.
Mais après, c'est une. On a la chance, quand on fait une BD comme ça, sur le long terme, avec beaucoup de pages, de pouvoir poser les bases du monde, finalement, assez tard, au fur et à mesure des événements. On part sur le principe, ça se passe dans Paris au départ. Après, on sent bien que c'est un Paris, mais c'est un Paris finalement parallèle peut-être. Enfin, voilà, il y a une espèce de notion comme ça où quasiment les premières menaces, les premiers événements qui arrivent à la page 100, par exemple, les premières apparitions arrivent à la page 100. On a vraiment le temps de poser les trucs au fur et à mesure. Du coup, je pense que ça participe beaucoup à cette sensation que tu peux avoir. Ça fait partie de des choses qu'on utilise en tant qu'auteur. Effectivement, on peut se permettre de laisser des trous et ça ne gêne pas le lecteur et ça lui laisse cette ambiance diffuse que ce monde qui l'estime être de cette façon, je peux le changer, enfin je peux en définir des nouvelles règles très vite en fait, très simplement, sans que j'ai dit le contraire à un seul moment. Effectivement, le lecteur a peut-être imaginé autre chose. Parce qu'on lui parle d'un truc qui lui paraît quotidien, mais ça peut tout à fait être effectivement un peu bougé derrière. Après, c'est pas forcément autant que ce que tu crois.
Mais en tout cas, c'est bien en écho aussi aux enfants, puisque finalement, même avant l'adolescence, on sait très bien que pour un enfant, c'est toujours difficile, et c'est ce qui fait la beauté de l'enfance, c'est ce qui fait qu'on la recherche tous et qu'on cherche tous à la retrouver. Pour un enfant, c'est très difficile de placer le curseur de la réalité. Où commence la réalité? Où s'arrête le rêve? Qu'est-ce qui est possible de faire dans la réalité? Qu'est-ce qui est possible de faire dans le rêve? Et ça, c'est pour moi l'une des choses les plus émouvantes dans Big Crunch. C'est cette manière qu'ont les enfants et les protagonistes de Big Crunch de croire que quelque chose de très complexe peut être très facile à changer. Et à l'inversement, quelque chose qui paraît très simple à un adulte, en fait, a besoin d'un super-héros, a besoin de pouvoirs extraordinaires pour pouvoir le faire, et c'est hyper émouvant. Moi, j'ai des enfants qui sont petits, en bas âge, qui ont 10 ans, mais je retrouve ça. Donc c'est ça où je redis encore une fois, tu fais une série de fiction, c'est certain, tu fais une série sur un héros qui, en fait, est à la fois un décor et une justification qui donne du relief à tes enfants, la manière dont ils s'engagent dans le remplacement de ce héros, mais en même temps, c'est profondément réaliste, Big Crunch.
Merci. C'est vrai que si j'avais à choisir d'enlever quelque chose, je pourrais plus facilement me passer de l'aspect super-héros que de l'aspect fratrie humain entre plusieurs jeunes personnages. Donc c'est vrai, mais j'aime vraiment que les choses soient mélangées, qu'on soit dans du divertissement que j'espère un peu plus humain. C'est cette dose-là que je retrouve pas forcément en tant que spectateur ou lecteur des gros films d'action. J'aime les gros films d'action, mais il manque un peu cette dimension parfois, donc j'essaye de proposer ce que je retrouve pas forcément.
Ok, alors je vois une question là, allez-y. Alors, est-ce que vous avez un micro, peut-être ?
Venez. Ceux-là sont des VHF.
Oui, je pense qu'on va rester debout là, voilà.
Alors,
sinon, il doit y avoir un micro, voilà.
Ça marche ?
Il y a les VHF.
Ah, il est là, ok.
Allez-y.
Moi, je voudrais revenir justement sur la confrontation à la réalité et au fait que, alors du coup, faut pas trop dévoiler l'histoire, mais au niveau de la menace des émergences, si je dis le terme, ça va pas dévoiler. Et le fait que finalement la population n'agit pas. Parce qu'il compte sur le super-héros, enfin, en tout cas avant qu'il ne réponde plus. Et je voudrais juste savoir du coup s'il y a vraiment un côté comme une critique de la société d'aujourd'hui sur le fait que la population ne prend pas forcément ses responsabilités et pense...
C'est le nœud principal en fait de Big Crunch au départ. En tout cas de l'histoire générale, c'est effectivement critiquer, dénoncer, c'est moi j'aime pas dans une histoire où on, C'est plutôt montrer ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'effectivement, la société est un peu comme ça, en attente de héros, en attente que les autres fassent les choses, et très prompt à critiquer s'ils ne le font pas, s'ils sont habitués à ce qu'on les fasse pour eux. Donc, effectivement, c'est une notion qui est très présente et qui sera présente vraiment tout du long du bouquin. C'est... Effectivement.
Ok, il nous reste peut-être encore juste une petite minute pour une autre question. Quelqu'un, non ? Alors voilà, maintenant on a plein de monde. Tout à l'heure on a commencé.
C'est pour le suivant.
Non, pas du tout. Alors je rappelle donc Big Crunch de Rémi Gourierec qui avait eu le prix spécial du jury en 2012 à Nantes et qui a énormément de talent et qui vous propose une rencontre absolument incomparable entre un vécu, une réalité. Une intuition, une sensation extrêmement juste de ce qu'est l'enfance par rapport au monde et à la réalité. Et puis bien sûr le thème du super-héros, donc Big Crunch, vous avez deux tomes pour l'instant chez Delcourt, et le troisième dans quelques semaines.
Je ne m'engage plus maintenant.
Bon, on espère.
En tout cas, a priori, je suis en dédicace dans 5 minutes.
Voilà, et tout à l'heure, bien sûr, il vous retrouve en dédicace. Et puis, Rémi, je te remercie encore 1000 fois d'être venu aux Utopiales. On se reverra pour les Utopiales suivantes, j'en suis certain.
Bah, ne serait-ce qu'en
pour la suite. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Et bonnes Utopiales à tout le monde. Voilà. Merci.